Le journal vous est présenté par Lou Momège.
Bonjour à toutes et à tous. Gabriel Attal s'apprête à accueillir Xi Jinping en début d'après-midi. Le président chinois arrive pour 2 jours en France afin de célébrer 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Mais cette venue suscite la colère des communautés opprimées par Pékin. La justice se saisit à nouveau de l'affaire Naël avec une reconstitution qui vient tout juste de commencer à Nanterre. Elle doit déterminer la légitimité ou non du policier qui a utilisé son arme et abattu le jeune de 17 ans en juin dernier. Enfin, nous serons au Brésil où Madonna a achevé sa tournée internationale hier soir, un concert historique en plein air qui a enflammé les plages de Rio de Janeiro. C'est en France que le président chinois débute sa tournée européenne. Xi Jinping arrive cet après-midi pour 2 jours de visite. Visite plutôt rare puisque la dernière remonte à 2019, juste avant le Covid. Mais cette année, Paris et Pékin célèbrent 60 ans de relations diplomatiques. Dominique André, la France a même été le premier pays occidental à reconnaître la Chine de Mao Zedong.
L'annonce a été faite officiellement le 27 janvier 1964 par un simple communiqué en 5 lignes. Quelques jours plus tard, le général de Gaulle reçoit la presse à l'Élysée et après 1 heure de conférence, il finit enfin par expliquer les raisons de ce tournant historique.
Il n'y a évidemment là, de notre part, rien qui implique aucune sorte d'approbation à l'égard du régime qui domine actuellement la Chine en nouant avec cet État des relations officielles, la France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est.
Claude Martin, ancien ambassadeur de France en Chine, qui a fait partie de la première équipe envoyée à Pékin, évoque un acte courageux.
Aux Nations Unies, c'était Taïwan qui représentait la Chine, mais il restait que pendant ce temps-là, il y avait un pays qui, à l'époque, avait 850 millions d'habitants à peu près, mais qui était en train de se doter lui aussi de l'arme nucléaire. Dans les déclarations qu'il a faites à ce moment-là, il est clair qu'il voyait dans la Chine le vieil empire chinois et pas du tout la puissance communiste.
Comment la France va-t-elle faire entendre sa voix durant cette visite d'État pour peser sur la Chine et garder aussi son autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis qui crient au danger chinois? Emmanuel Macron va européaniser une fois de plus son entretien avec Xi Jinping. Il invite la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Paris demain.
Recevoir Xi Jinping, c'est aussi polémique. En France, plusieurs communautés opprimées par le régime chinois s'indignent. Ouïghours et Tibétains se mobilisent pour manifester à Paris aujourd'hui. Avant eux, les associations Amnesty International et Human Rights Watch ont demandé des comptes à Emmanuel Macron sur la venue du président chinois. Une occasion de tenter de faire entendre leur voix, Nathalie Charbonnier.
Hongkongais, Taïwanais, Tibétains, Ouïghours, tous dénoncent la venue en France du président chinois. Chez les Ouïghours, où le terme « génocide » est avancé, on regrette que le président Macron reçoive celui qu'il qualifie de « bourreau », alors que le président français se refuserait à rencontrer les victimes qui ont fui la Chine et qui vivent en France, dit Nouréan de l'Institut Ouïghour d'Europe.
Nous avons demandé à Emmanuel Macron à plusieurs reprises de nous recevoir et qu'il n'a jamais pris au sérieux nos demandes. Nous avons 2 rescapés de camps ici en France, et il ne les a jamais reçus non plus.
Chez les Tibétains, c'est avec un courrier que le président français a été informé de la situation dramatique que supporte le peuple du Dalai Lama, une initiative que l'on doit à la diaspora tibétaine, très active, notamment les dernières générations, dont fait partie Yongke.
On travaille tous ensemble pour que le Tibet soit libre et pour qu'un jour sa sainteté, le 14e Dalai Lama, puisse retourner dans un Tibet libre. La Chine a certes a réussi à prendre notre pays, mais ce qu'ils n'ont pas réussi à voler, c'est notre force intérieure qu'on a en nous.
Enfin, du côté de l'Élysée, on explique que les droits de l'homme seront évoqués par le président français qui devrait soumettre une liste de cas et de noms de prisonniers à son homologue chinois.
Nathalie Charbonnier. 86% de la communauté juive se sent davantage en danger depuis le 7 octobre. La moitié a même arrêté de porter des signes religieux dans les espaces publics. Voilà ce qu'établit un sondage IFOP à la veille des assises de lutte contre l'antisémitisme. Moqueries, insultes, voire agressions, les actes antisémites ont largement augmenté selon le CRIF depuis le début de l'attaque du Hamas sur Israël. C'est avec la plus grande fermeté qu'Emmanuel Macron condamne les blocages pro-palestiniens dans les universités et les grandes écoles. Le président se dit même favorable aux évacuations des établissements, comme cette semaine à Sciences Po Paris. Alors que les militants clament leur soutien à Gaza, des pourparlers sont en cours au Caire pour tenter de parvenir à une trêve. Discussion compliquée, puisque le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de bloquer les négociations. Sur le terrain, de nouvelles frappes israéliennes ont visé la bande de Gaza et notamment Rafah, faisant 32 morts ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste Hamas. L'usage d'une arme était-il légitime contre Naël? Une reconstitution vient de débuter pour tenter de répondre à cette question. Le 27 juin dernier, Naël, 17 ans, était abattu par un policier à Nanterre alors qu'il était au volant d'une voiture. La mort du jeune homme avait engendré des émeutes dans tout le pays. Le policier mis en examen pour homicide volontaire ainsi que les principaux témoins sont sur les lieux du drame. Jean-Michel Schlosser, sociologue et ancien inspecteur de police judiciaire, explique comment se déroule ce genre de reconstitution.
Une reconstitution se fait toujours sur les lieux mêmes et à l'heure même. Là, c'est pas le cas, mais si vous avez un crime ou un meurtre qui a été perpétré à 2h du matin, la reconstitution aura lieu à 2h du matin, de façon à avoir tout simplement la même luminosité, ou pas d'ailleurs, hein, de façon à avoir à peu près le même temps, même la météo est prise en compte. Hein. Le juge d'instruction et les avocats souvent, hein, aussi bien de la défense que de la partie civile, essaient de se rapprocher le plus possible, vraiment, des conditions réelles de la commission d'infraction. Le juge d'instruction pose des questions. Alors, vous aviez le pied devant le pneu, bon, d'après vous, à combien? 30 cm, 1 mètre? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, non? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment? Pourquoi? Il y a des choses qui peuvent survenir pendant la reconstitution. Des détails qui vont revenir, notamment lorsqu'on refait les gestes. Des choses qui n'ont peut-être pas été suffisamment éclaircies pendant l'enquête, qui peuvent ressortir à ce moment-là. Les avocats peuvent avoir des questions. On nous dit que, mais on s'aperçoit que, etc., etc. Le mis en examen se met dans la position, et puis s'il veut pas le faire, c'est un autre policier, un plastron, qui joue son rôle, si je puis dire, hein, qui fait les gestes en lieu et place du mis en examen.
Jean-Michel Chausser répondait aux questions d'Estelle Caméraire. Militants, artistes, personnalités politiques, main dans la main pour dénoncer l'offensive transphobe. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans 45 villes en France pour dénoncer notamment un projet de loi du groupe Les Républicains qui voudrait interdire les transitions de genre pour les mineurs. Les premiers débats pour les européennes débutent aujourd'hui. Les 7 têtes de liste seront réunies ce midi autour du plateau d'un grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première. 2 heures de débat au cours desquels 4 termes principaux seront abordés. La guerre économique face à la Chine et aux États-Unis, les enjeux de la défense européenne, l'immigration et la protection des frontières du continent et enfin le défi écologique. C'est une madone vêtue de noir qui a embrasé la plage de Copacabana. Un concert de Madonna gratuit et en plein air à Rio de Janeiro, il n'en fallait pas plus pour enchanter le public brésilien hier soir. Un concert historique qui clôture la tournée internationale de la diva Mathieu Albertini.
Quand Madonna arrive sur scène, la plage de Copacabana entre en fusion. 1,6 million de personnes en délire sont là pour l'accueillir. 2 heures plus tard, le succès est total. Isis est aux anges et a du mal à reprendre ses esprits.
C'est une opportunité unique de voir une artiste comme elle sur scène et en plus au beau milieu de Copacabana. C'est simplement magistral, une performance incroyable, incroyable. Je l'aime, je l'aime.
Revenant sur 40 ans de carrière, la star a enchaîné les succès, se laissant parfois submerger par l'émotion. La petite touche brésilienne, avec la présence remarquée de 2 stars locales, a été saluée par le public. Mais pour Eva, c'est sa défense constante des minorités qui fait que Madonna reste une icône indétrônable.
C'est génial qu'elle divulgue au public de Rio et au grand public tous ces messages qu'elle fait passer par ses paroles qui défendent notamment l'émancipation des femmes. Ce fut merveilleux, mais je ne m'attendais pas à moins de notre reine à tous.
Malgré des craintes concernant la sécurité, l'événement s'est déroulé sans incident majeur et la reine de la pop a écrit avec panache son nom dans la légende des folies grandioses du Brésil.
Mathieu Albertini, notre correspondant au Brésil. Le peintre américain Frank Stella s'est éteint hier à 87 ans, figure de l'art d'après-guerre aux États-Unis. Il est connu pour ses tableaux aux formes géométriques, souvent colorées. Un jeune prodige reconnu comme un artiste américain majeur avant même d'avoir 25 ans et qui a ensuite poursuivi sa carrière pendant plus de 60 ans. Frank Stella a succombé des complications d'un lymphome. Ce matin, une grande partie de la France est sous les nuages, du brouillard dans les Hauts-de-France, de la pluie de la Meuse jusqu'au Rhône. Seule la partie sud profite d'un peu de soleil. Cet après-midi, temps orageux en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Il fera 25 degrés à Grenoble, 19 à Auxerre et Montpellier, 14 à Nantes.